et bienvenue sur CFM pour cette nouvelle émission des Messagers du Cheval, une émission consacrée aux équidés et à leur univers. Il y a une dizaine de jours, nous célébrions l'anniversaire de l'armistice de 1918, signé le 11 novembre, qui mit fin provisoirement au combat de la Première Guerre mondiale. 10 millions d'hommes et 8 millions de chevaux, d'ânes et de mules ont perdu la vie pendant ce conflit. Mais il y a des histoires qui se terminent mieux pour les chevaux comme pour les hommes. Et c'est le cas du cheval dont je vais vous parler aujourd'hui, qui fut surnommé par la presse anglaise et la cavalerie canadienne le cheval que les Allemands n'ont pas pu tuer. Ce cheval s'appelle Warrior, un nom prédestiné pour un cheval de guerre puisqu'il signifie « guerrier » en anglais. Il est né en 1908 sur l'île de Wight, une île située dans la Manche à 3 km au large de la côte sud de l'Angleterre, en face du comté du Hampshire. L'île fait 380 km² et son littoral 92 km. Warrior est né exactement à Yafford, aujourd'hui petit hameau situé sur la côte ouest de l'île. C'est un pur sang anglais B d'1,52 m au garrot avec une étoile sur le front. Il est né et va grandir sur les terres de Jack Seeley, qui avait fait saillir sa jument Cinderella par Strebit, un pur sang anglais qui remporta une course de crosse sur l'île en 1909. C'est donc Jack Seeley qui va élever Warrior, galopant avec lui le long des plages, accoutumant le cheval au ressac. Jack Seeley appartient à une famille d'hommes politiques, d'industriels et de propriétaires terriens importants. Il a fait ses études à Harrow, où il rencontra Winston Churchill, qui va devenir son ami, avant d'étudier au Trinity College de Cambridge. Il sert dans le régiment de cavalerie, le Hampshire Yeomanry, où il est promu au grade de capitaine en 1892. Il commence ensuite une formation au sein des cours de justice et obtient son diplôme du barreau de Londres. Les chevaux sont sa passion, une passion qu'il partage avec Churchill. En 1900, nous le retrouvons sur les quais du port de Southampton, où il embarque avec 500 hommes afin de prendre part à la Seconde Guerre des Boers en Afrique du Sud. On lui a interdit d'amener avec lui Maharaja, son petit cheval arabe blanc, pour des raisons de camouflage. Mais qu'à cela ne tienne, Seeley le teint en marron, car il ne veut pas s'en séparer. Alors qu'il est toujours dans l'armée en Afrique du Sud, il est élu député conservateur de l'île de Wight. Il appartient au même groupe de jeunes députés conservateurs aux côtés de Winston Churchill. Mais, opposé à la politique du gouvernement Balfour en faveur de l'esclavage des Chinois en Afrique du Sud, Jack Seeley quitte le parti, se présentant par la suite sous l'étiquette indépendant puis libéral. Les conservateurs lui opposeront un des leurs sur l'île de Wight en 1904, mais il sera réélu. En 1908, il est promis au grade de colonel de la Hampshire Yeomanry. La même année, il est nommé sous-secrétaire d'État aux colonies, puis il est ensuite sous-secrétaire d'État à la guerre de 1911 à 1912 et secrétaire d'État à la guerre jusqu'en 1914. Il démissionne cette même année suite à la crise de Cura en Irlande. Le 4 août 1914, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne et entre dans le conflit qui deviendra la Première Guerre mondiale. Jack Seeley est rappelé en service actif. Envoyé en France, il prendra avec lui son cheval Warrior. Le 11 août, ce dernier débarque au Havre avec le colonel Seeley et la force expéditionnaire britannique. Seeley a été nommé à un poste de l'état-major. La première fois que l'homme et le cheval affrontent l'ennemi, c'est lors de la bataille de Mons en Belgique, le 23 août. Dès le début, Warrior montre un état d'esprit remarquable, n'essayant pas de s'enfuir comme beaucoup d'autres chevaux affolés par la mitraille et les tirs d'obus. Comme l'écrit son cavalier, je cite, « Il faisait semblant d'être courageux, une lourde tâche qu'il a bien réussi. » En septembre, grâce à son palefrenier Jack Thompson, Warrior parvient à échapper à l'encerclement de l'armée allemande, galopant sur plus de 16 km à travers la campagne. Le 28 janvier 1915, le colonel Seeley reçoit le commandement de la brigade de cavalerie canadienne, soit 3000 hommes et chevaux. Aussi, en février, Warrior et son cavalier retournent-ils en Grande-Bretagne pour retrouver les trois régiments de la cavalerie canadienne cantonnés dans la plaine de Salisbury, où elle attend de reprendre l'entraînement sous la houlette de son nouveau commandant. Elle est composée de tout un assortiment de cow-boys, d'employés de bureau, de cavaliers de la police montée canadienne et d'indiens. Nommé général de brigade, Seeley devient vite populaire, mais pas autant que son cheval. C'est lui que les soldats saluaient en premier. Voici Warrior. Avant d'ajouter « Et voilà le général ». Le 5 mai 1915, ils embarquent pour la France, Warrior descendant le premier du bateau qui les a transportés. Ils se retrouvent ensuite dans les tranchées près de Ypres. Un obus y transperce le cheval à ses côtés, mais Warrior s'en sort sans une égratignure. Quelques jours plus tard, un autre obus tombe sur son écurie, quelques secondes après qu'il l'ait quitté. Le général Sully se souvient, je cite, « À partir de là, on m'a envoyé me présenter au front tenu par le contingent indien. Et j'ai pris Warrior avec moi. C'était la partie de la ligne la plus détrempée, la plus lugubre, et les coups de feu ne s'arrêtaient jamais. Chaque côté voulait tester l'autre, et à nouveau Warrior s'est prouvé exposé à cette chose dangereuse qu'est le feu des fusils et des mitraillettes. » Le 1er juillet 1916, Warrior est prêt à se lancer dans la bataille de la Somme et en mars 1917, la cavalerie attaque à Guyancourt. Un sniper allemand vise le cheval du général, mais c'est son compagnon contre lequel il frottait son nez quelques secondes auparavant qui est touché. Septembre 1917, les Canadiens sont envoyés pour prendre la relève des Australiens et des Néo-Zélandais de Lanzac afin de participer à l'offensive de Passchendaele lors de la deuxième bataille des Flandres. Le 26 octobre, l'offensive canadienne commence. L'avancée dans la boue et sous les tirs ennemis est lente et les pertes sont lourdes. Malgré l'adversité, les Canadiens atteignent les abords de Passchendaele le 30 octobre, à la fin de la seconde attaque, sous une pluie battante. Warrior est enseveli sous la boue, il n'a plus qu'un sabot qui dépasse, et il a fallu des efforts désespérés pour l'en libérer. La bataille de Passchendaele est considérée comme le Verdun des forces britanniques. Le 20 novembre, Warrior est encore en première ligne lors de l'attaque sur Cambrai. Nous allons maintenant écouter John Tams chanter Only Remembered, un extrait de la comédie musicale War Horse.
Fading away like the stars in the morning, losing their light in the glorious dawn. Thus shall we pass from this earth and its toiling, only remembered for what we have done. Horses and men, plowshares and traces, the line of the land and the paths of the sun. Season by season, we mark nature's graces, only remembered for what we have done. Only remembered, only remembered, only remembered. Only remembered for what we have done. Oh, sing the anthems and oh, tell the story. Will the line hold? Will it scatter and run? Shall we at last be united?
L'année 1918 voit arriver sur le front un personnage inattendu, le peintre Alfred Munnings. Nous vous l'avions présenté dans une émission précédente. Le Canadian War Memorial Fund lui a confié la mission d'immortaliser la contribution de la brigade de cavalerie canadienne ainsi que celle du corps forestier canadien sur le front. Lancé par Sir Max Aitken, le fonds employait à cet effet plus d'une centaine d'artistes. Munnings arrive donc en France en février. Il va faire énormément de dessins et de tableaux, dont le portrait de Warrior monté par le général Sealy, ainsi que celui de Peggy, la jument du brigadier général Robert Patterson. Jack Sealy se remémorait leur rencontre en ces termes. « En revenant du front un matin froid, couvert de boue, j'ai rencontré une apparition étrange en vêtements de civil. Munnings me dit « Approchez-vous, je voudrais vous peindre. » Aussi, Warrior et moi-même restâmes cloués sur place. Mais le peintre n'eut qu'une heure pour faire son tableau. Le 21 mars, c'est la dernière grande offensive allemande. La cavalerie canadienne commence à battre en retraite. Au bout de 4 ans de guerre, Warrior est épuisé. Mais sa chance ne l'abandonne pas. Le 27 mars, une frappe tombe sur la villa abandonnée où il était au repos. Warrior reste prisonnier sous une poutre, mais à nouveau, il s'en sort indemne. Cependant, sa plus grande épreuve l'attend le 30 mars. Sealy et Warrior vont mener une charge de cavalerie cruciale dans le bois de Moreuil, au sud-est d'Amiens. Voici comment le général Sealy a décrit le comportement de son cheval lors de la première phase de la bataille. Il était déterminé à aller de l'avant et bondit. Toute sensation de peur l'avait quitté alors qu'il galopait comme un cheval de course. Il y eut une grêle de balles venant de nos ennemis et peut-être la moitié d'entre nous furent touchés. Mais Warrior ne s'en souciait pas. Sa seule idée était d'atteindre l'ennemi. Il a presque enfoui sa tête dans les broussailles quand nous avons atteint l'endroit du bois que nous avions choisi. Nous fûmes accueillis par 20 ou 30 Allemands qui nous tirèrent dessus avant qu'ils ne s'enfuient en courant, pensant sans aucun doute que des milliers d'entre nous nous suivaient. Au cours de cette première charge, 5 des 12 hommes furent tués, mais le fanion rouge avec un C noir fut planté, ce qui était le but afin de permettre aux hommes de viser. Pensant qu'ils affrontaient une attaque massive des tanks alliés, les Allemands installèrent des postes de mitraillettes dans tout le périmètre des bois. Sealy et certains des survivants parvinrent à atteindre le bois et continuèrent le combat au corps à corps. Puis, la charge du lieutenant Gordon Flowerdew infligea une défaite aux Allemands au cours de ce qui fut la dernière charge de cavalerie de la Première Guerre mondiale et la dernière charge de cavalerie tout court. 70% des cavaliers canadiens furent tués, comme Gordon Flowerdew, ou blessés au cours de cette attaque face à 300 soldats de l'infanterie allemande qui perdirent également la moitié de leurs effectifs. Mais cette victoire permit de stopper l'offensive de printemps allemande en France. Le 31 mars, Sealy et Warrior se trouvaient au nord de Gentel afin de préparer une attaque le lendemain matin. Mais dans le noir, Warrior marcha sur une pierre et se mit à boiter. Aussi, Sealy le mit au repos. Le lendemain, 1er avril, le général Sealy est gazé et ses chevaux remplaçants tués. Il doit être rapatrié en Angleterre et est relevé du commandement de la brigade le 20 mai. C'est le propriétaire de Peggy, le brigadier général Robert Patterson, qui lui succède. Warrior devra attendre le mois de décembre pour entrer sur l'île de Wight à Brooke, où il retrouvera Jack Sealy pour Noël. Mais tous les chevaux britanniques n'ont pas eu cette chance. Des milliers d'entre eux sont bloqués en France et en Belgique, menacés de finir à la boucherie ou de mourir de faim et de maladie parce que les officiels incompétents n'ont pas été capables de les rapatrier. En apprenant cela, Winston Churchill, ministre de l'armement en 1917 puis de la guerre en 1919, rentra dans une grande colère. Il bombarda de mémos les officiels de son propre département et ceux du ministère des Transports qui avaient promis de ramener 12 000 chevaux par semaine mais qui avaient bien du mal à n'en rapatrier ne serait-ce que le quart. L'intervention de Churchill permet d'augmenter le nombre de bateaux et le nombre de chevaux en partance pour l'Angleterre augmenta à 9 000 par semaine. Sur le million de chevaux envoyés au front par le Royaume-Uni, 900 000 ne revinrent jamais. On put revoir le général Sealy et Warrior le 19 juillet 1919 à Londres, où ils participèrent à la parade de la victoire à Hyde Park, parade menée par les commandants alliés, Pershing pour les Américains, Foch pour les Français et Haig pour les forces britanniques, devant 15 000 hommes de troupes. Puis Warrior a pu profiter d'une vie tranquille, celle du cheval de la famille Sealy. Le 30 mars 1922, jour anniversaire de la bataille du bois de Moreuil, Warrior remporte le cross sur l'île de Wight que son père avait gagné avant lui en 1909. En 1933, le général fut fait pair d'Angleterre et reçut le titre de baron Mottiston. Au cours de ces dernières années, il s'est attelé à un livre qui raconterait l'histoire de Warrior. Il a fait même venir Alfred Munnings sur l'île de Wight afin que le peintre puisse croquer l'environnement dans lequel Warrior a vécu et faire de nombreux dessins de son cheval. Tous ces dessins et ceux que Munnings avait fait pendant la guerre vont illustrer le livre qui sort en 1934 sous le titre « My Horse Warrior »,« Mon cheval Warrior », illustré donc par Alfred Munnings. Silly et Warrior vieillissent ensemble. En 1938, ils faisaient encore leur canter sur les collines de Motistone. « Nous réjouissant, écrivait Silly, nos âges additionnés, totalisant 100 ans. » Warrior, dont la santé déclinait, dut être euthanasié en avril 1941, chez lui, à Motistone, sur l'île de Wight. Il avait 33 ans. La nouvelle de sa mort fut annoncée dans les journaux comme le Times et l'Evening Standard. Mais son histoire n'est pas finie. Un des petits-enfants du général Silly, Bro Scott, est devenu journaliste sportif et chroniqueur hippique. Il n'a pas oublié l'histoire de Warrior. En 2011, il écrit une introduction au livre de son grand-père qui ressort aux éditions du Racing Post. Warrior, The Amazing Story of a Real War Horse. C'est un succès et le livre remet Warrior sur le devant de la scène. Et, en 2014, le cheval reçoit à titre posthume la médaille Deakin, la plus haute distinction militaire réservée aux animaux, pour sa bravoure pendant la Première Guerre mondiale. C'est Bro Scott qui reçoit la médaille au nom de Warrior et de tous les animaux qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale. Les familles Scott et Silly ont également commandé au sculpteur Philip Baker une statue de Warrior montée par le général Silly qui se dresse aujourd'hui dans les jardins de Kersbrook Castle sur l'île de Wight. Pour finir cette émission, je vais laisser une dernière fois la parole au général Silly. L'histoire de mon cheval Warrior montre que sa personnalité vivante m'a aidé à gagner la confiance de milliers d'hommes courageux, ce que je n'aurais jamais réussi à faire sans lui. Mais grâce à son courage suprême, à un moment critique, il m'a mené à la victoire au cours de ce qui était peut-être une des plus grandes crises de la guerre. Dès le début, j'ai pensé que la guerre serait longue. Mais je ne croyais pas que nous resterions en France pendant plus de 4 ans, ni n'espérais que nous rentrions tous les deux vivants. J'ai monté Warrior sous des pilonnages d'artillerie, parfois si lourds qu'ils nous étions souvent les seuls presque à en réchapper. Et pas une fois, il n'a essayé de s'emballer ou de faire tout autre chose que l'on pourrait attendre d'un animal réputé être naturellement aussi timide qu'un cheval. Non, mon courageux cheval n'a pas seulement contrôlé sa peur, mais grâce à son exemple, il a été d'une aide inestimable. Bonne semaine à toutes et à tous, et à très vite pour une prochaine émission.